Dans la vidéo précédente, nous nous sommes arrêtés à la mort de Judas Maccabée, véritable héros national pour les Juifs, nouveau David, nouveau Josué. Il a fini par mourir héroïquement au combat face à une énorme armée séleucide. Mais est-ce que sa mort signifie la fin de la révolte? Non, car après lui, il a encore au moins deux frères qui peuvent prendre sa suite. Et c'est ce que je vous propose de voir maintenant. Sous vos yeux, vous avez le tableau avec toute la dynastie qui a suivi Judas Maccabée. Donc avec bien sûr ses frères, mais aussi ses neveux qui sont venus après lui. Et je vous propose maintenant de voir l'histoire de son premier frère, c'est Jonathan. Après des années de guérilla, Jonathan, qu'on surnomme le rusé, profite d'une intrigue pour le trône séleucide pour devenir à la fois gouverneur de la province et grand prêtre. Comment est-ce qu'il s'y prend? Eh bien, donc tout commence, comme je l'ai dit, par une intrigue entre deux personnes pour être roi séleucide. Donc ces deux personnes sont Démétrios d'un côté et Balas de l'autre côté. Et bien sûr, puisqu'ils se disputent le trône, ils cherchent des appuis avec les différents gouverneurs locaux, les personnes qui peuvent avoir une certaine influence et leur permettre d'emporter la partie. Alors bien sûr, Jonathan, en tant que chef de la révolte en Coélie-Syrie, est courtisé et en échange de soutenir Démétrios, eh bien, il devient gouverneur de la province. Donc voilà, Démétrios lui offre cette charge à condition qu'il le soutienne. Donc voilà, il le soutient. Puis il y a Balas qui vient le voir en lui disant que s'il le soutient, il le nommera grand prêtre. Et Jonathan accepte aussi. Donc il accepte l'offre des deux. Et donc c'est comme ça qu'en étant justement très rusé, il devient à la fois gouverneur et grand prêtre. Mais si vous connaissez un petit peu la loi de Moïse, ça pose un certain nombre de problèmes, le fait qu'il devienne gouverneur et grand prêtre. Alors, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, Jonathan est grand prêtre, mais il ne fait pas partie de la lignée de Tsadok, la lignée des grands prêtres. Il est juste prêtre. Il est descendant d'Aaron, mais il n'est pas descendant de cette lignée particulière de grand prêtre. Et ça pose un énorme problème. En plus, en tant que gouverneur de la province, il est quasi roi et il n'est pas non plus descendant de David. Bien sûr, il ne peut pas être descendant de David vu qu'il est lévite. Et troisième problème, normalement, dans la loi de Moïse, on ne peut pas allier le pouvoir religieux au pouvoir politique. Si vous connaissez un petit peu l'histoire d'Israël, vous devez vous souvenir qu'il y a un roi qui a essayé d'offrir lui-même des sacrifices dans le temple. Ce roi s'appelait Ozias, pardon. Et ce roi, pour avoir commis ce sacrilège d'allier le pouvoir politique au pouvoir religieux, est devenu lépreux. Et donc il n'a plus pu exercer sa royauté, c'est son fils qui a régné à sa place. Ozias a fini lépreux toute sa vie. Donc vraiment, ça pose un énorme problème éthique que Jonathan devienne gouverneur de province en plus de grand prêtre. N'empêche que Jonathan devient très puissant et tente de faire le siège de la ville de Ptolémaïs, qui s'appelle aussi Acre, qui deviendra plus tard, bien plus tard, Saint-Jean d'Acre. Cette ville était le symbole du pouvoir séleucide sur la Judée. Et donc Jonathan se sent tellement en confiance qu'il va vouloir prendre cette ville. Alors les Séleucides résistent et puis négocient avec lui, mais le résultat de la négociation est très favorable à Jonathan, puisque le territoire de la Judée est presque doublé. Donc voilà, il arrive vraiment à acquérir un certain nombre de territoires. Et même en contrepartie d'un présent de 300 talents, il obtient que l'ensemble de son territoire soit exempté d'impôts. Donc il n'a plus à payer l'impôt au séleucide et il a doublé son territoire. Ce qui est quand même un très très bon résultat. Mais Jonathan, qui devient très très puissant, finit par être trahi par les Séleucides, qui l'invitent à un banquet et puis qui finalement le prennent en otage avec ses deux fils et qui finalement le tuent avec ses deux fils. Donc il est tombé dans un piège et il finit par en mourir. Et donc voilà, c'est la fin de Jonathan. Mais heureusement, il reste encore le frère de Jonathan qui s'appelle Simon. Et donc Simon prend la suite. Lui, il officialise la succession héréditaire pour les deux fonctions, pour les deux charges, et il obtient la quasi-indépendance de la Judée. Sous son gouvernement, la Judée devient très prospère et l'enseignement religieux se transmet. Et donc voilà, on voit que l'hellénisme n'a plus cours en Coélé-Syrie, qui devient un territoire quasi indépendant. Mais Simon est assassiné par son gendre avec deux de ses fils. Donc voilà, son règne se termine. Et c'est le troisième de ses fils qui a échappé à la tuerie qui va lui succéder. C'est Jean Hyrcan. Lui, il va être le quasi-roi d'un territoire en paix. Ce territoire, il va l'étendre, il va l'homogénéiser. Le pays sous Jean Hyrcan est à l'apogée de sa puissance, apogée qui par définition ne sera jamais retrouvée plus tard. Et il va faire trois choses importantes. Il va imposer la circoncision aux populations colonisées. Il va annexer un territoire qui s'appelle l'Idumée. Et vous allez voir que ça va avoir une certaine importance. Et enfin, il va détruire le temple samaritain du mont Garizim et même la ville de Samarie. Et ça, vous allez vous penser sûrement aux résonances que ça va avoir à l'époque de Jésus, cette espèce de haine entre les Juifs et les pharisiens, et même la conversation entre Jésus et la femme samaritaine qui demande à Jésus, est-ce qu'on doit adorer sur cette montagne-ci? Et quand elle dit cette montagne-ci, c'est la montagne du mont Garizim, donc parce qu'à l'époque, avant, sur cette montagne, il y avait un temple samaritain qui avait été détruit par Jean Hyrcan. Jean Hyrcan va même résister aux Égyptiens, donc l'autre grande puissance. Bref, Jean Hyrcan fait jeu égal avec ses voisins, c'est dire si il est devenu puissant. Alors voici une carte hein, pour vous montrer l'évolution du territoire sous les Maccabées, donc sous Juda Maccabée. D'ailleurs, il manque un S à Juda. Vous avez un tout petit territoire autour de Jérusalem. Sous Jonathan, ça s'étend un petit peu. Et là, vous voyez, sous Hyrcan, ça devient quand même un petit peu énorme. Donc, les annexions se succèdent. Avec donc au sud, avec Hébron et au sud d'Hébron, vous avez donc l'Idumée, hein, qui vient de Édom, comme vous pouvez voir sur les cartes à gauche. Édom, qui était donc Ésaü. Hein. Édom et Ésaü, c'est la même chose. Donc les descendants d'Ésaü, le frère jumeau de Jacob. Ensuite, après Jean Hyrcan, vous avez Aristobule, qui est son fils, qui l'a déjà aidé dans plusieurs théâtres militaires. C'est lui et son frère Antigone qui ont battu les Égyptiens. Cet Aristobule n'a régné que une année, mais il est très cruel, donc il a bien marqué les esprits. C'est sa mère qui a normalement les pouvoirs politiques, lui n'a hérité que de la charge de grand prêtre, mais pour avoir les pouvoirs politiques, il fait emprisonner sa mère et la laisse mourir de faim. Ensuite, il fait condamner à mort Antigone, qui est un rival potentiel. Antigone, c'est son frère, et il enferme aussi ses autres frères. Donc voilà, Aristobule n'a régné qu'un an, mais il a quand même fait pas mal de choses bizarres. Ensuite vient au pouvoir Alexandre Jeannet, qui est le frère d'Aristobule. Et la femme d'Aristobule, qui s'appelle Salomé, va épouser Alexandre Jeannet. Elle va le libérer d'abord, et puis après, elle va l'épouser. Alexandre va officiellement prendre le titre de roi, ce qui va provoquer des émeutes, parce que bien sûr, il n'a pas le droit de prendre le titre de roi, il n'est pas descendant de David, et en plus, il est grand prêtre. Mais ces émeutes, il va les écraser dans le sang, et il va encore étendre ses frontières. Et donc là, vous allez encore avoir une petite série de cartes pour voir l'évolution du territoire. Donc on s'était arrêté avec la carte sous Hyrcan. Et donc nous allons après avec une carte sous Aristobule I qui avait continué d'étendre le territoire. Et là, nous avons le territoire sous Alexandre Jeannet. Ce territoire commence vraiment à devenir énorme. Voilà, nous avons terminé le volet politique. Et dans une prochaine vidéo, nous allons voir les conséquences religieuses de cette domination asmonéenne.